Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1228 en ce samedi 9 mars. J'espère que tout le monde va bien. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues. Voilà, tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago avec aujourd'hui en première heure deux nouveaux extraits du disque du mois intitulé 1975 par Malty Milk. Et puis c'est Olivier Gall, le nouveau directeur de La Traverse, la belle salle à Cléon près de Rouen, qui nous régale les calices depuis plus de 30 ans, qui nous présente les quatre dates du printemps à ne pas manquer avec en tête d'affiche Del Grey, Joe Louis Walker, John Cleary et Erya Littinen, des concerts auxquels vous pouvez assister gratuitement en tentant votre chance tout simplement sur la page cadeau de Sweet Home Chicago, bluesradio.fr. Avec la rubrique Les Incontournables, Gladys Amoureuse nous propose de revenir en 1961 avec l'immense B.B. King pour réviser l'un de ses grands classiques. Il y aura également la rubrique Beatles Song Story de Jackie Emery qui nous fera revenir sur une année fétiche, 1963. Outre les Beatles, nous écouterons aussi des Isley Brothers, Arthur Alexander et même Richard Anthony. Et puis en deuxième heure, on découvrira Marquis Knox, jeune bluesman de Saint-Louis dans le Missouri en interview. Allez, voici Malty Milk tout de suite avec un nouvel extrait de ce disque du mois, A Little Bit of Soul. Malty Milk avec Arnaud Fradin qui sera en interview dans 15 jours dans Sweet Home Chicago, Little Bit of Soul, extrait de 1975. Voici une interview avec Olivier Gall, nouveau directeur de La Traverse à Cléon, qui va nous parler des quatre dates du printemps. Je suis au téléphone avec Olivier Gall, directeur de La Traverse. Bonjour Olivier.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu depuis la dernière fois? Oui, c'était en automne. On se parlait de la saison automne de La Traverse. Ça va bien? Il y a des choses qui ont changé à La Traverse. Hein.
Bah oui, en fait, je viens d'arriver comme nouveau directeur. Donc ça, c'est voilà, c'est une chose qui est importante, qui est importante pour moi, avant tout, mais importante pour La Traverse aussi.
Et importante pour La Traverse, qui va peut-être, je ne sais pas, insuffler quelque chose de différent, une programmation à partir de l'automne, j'imagine, hein, qui sera de ta patte, on va dire.
C'est ça. Je suis en train de travailler dessus et je pense que c'est exactement à partir de l'automne qu'on va voir la signature, si j'en ai une, en fait. Pour être tout à fait honnête et d'entrée de jeu sans aucune fausse modestie, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment conscient d'hériter d'une histoire. En fait, je viens à La Traverse depuis très longtemps. On en a déjà parlé dans les interviews précédentes.
Mais tout à fait, oui.
C'est vrai que voilà, je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de préserver l'ADN et l'âme de La Traverse plutôt que quelqu'un qui va chercher d'entrée de jeu à ajouter ma patte, entre guillemets, si j'en ai une.
D'accord. Donc, ça veut dire que les spectateurs qui sont présents depuis plus de 30 ans maintenant à La Traverse vont y retrouver leurs petits. On est d'accord que la programmation de l'automne ne va pas paraître sur le site latraverse.org avant le mois d'août, c'est ça que généralement qui se passe, août, septembre.
Ouais. Ouais, tout à fait. C'est à partir du moment où j'aurai validé l'ensemble. Mais en effet, je pense qu'à partir de la diffusion de cette programmation, le public, et notamment celui de ta radio, va pouvoir voir un peu vers quoi je me dirige.
Voilà. Donc, juste après Jean-Christophe Faller, qui lui-même succédait à Paul Moulin, qui lui-même était arrivé après Marc Bourreau, c'est donc toi, Olivier Gall, qui va présider au destiné de la programmation de La Traverse. Mais là, on va évoquer ce qui va se passer au printemps. Il y a 4 dates, simplement. J'ai envie de dire, c'est moins que d'habitude, non?
Oui, c'est moins que d'habitude. Alors, en fait, il faut vraiment comprendre que quand on arrive comme ça sur un poste de direction, on a forcément une année de transition qui se met en place, c'est-à-dire que cette programmation, il y avait déjà, entre guillemets, des engagements, même moraux, qui sont pris, mais qui sont importants, je pense, pour la crédibilité de la structure. Et du coup, en fait, il y avait des choses qui avaient déjà été plus ou moins engagées. Alors là, pour le coup, il y a des choses que j'assume totalement. Par exemple, si on parle de Delgrasse, qui est le premier groupe.
Eh oui.
Enfants de l'autre côté, on était bien alignés.
C'est pas moi qui l'ai programmé, mais en même temps, j'avais eu la chance d'être là quand ils étaient venus en 2015 à La Traverse. Ils étaient en première partie du Chicago Blues et c'était génial. En fait, moi, j'ai un souvenir de ce concert où tout le monde était debout à la fin de la première partie.
Alors, il y a une particularité avec ce mix blues et de musique des Caraïbes, c'est également l'orchestration avec un sous-bassophone. Enfin, Delgrasse, c'est une aventure ultime.
Ouais, c'est complètement ça. Alors déjà, donc c'est un trio, batterie, sous-bassophone, guitare et chant. Mais au-delà de ça, en fait, il faut... Alors, c'est du blues caribéen, on appelle ça, voilà, le chanteur vient de Guadeloupe, mais le nom n'est pas pour rien dans ce qu'est ce groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe engagé. Delgrasse, ça vient de Louis Delgrasse, qui est un peu l'équivalent de Toussaint Louverture à Haïti, c'est-à-dire que c'était un commandant, en fait, en 1802, qui va lutter contre le fait que Napoléon va remettre en place l'esclavagisme en Guadeloupe. Et voilà, et donc, c'est un militant, et ce groupe Delgrasse a vraiment des chansons engagées. C'est un blues vraiment engagé. C'est pas du tout, quand on dit un blues créole ou un blues caribéen, on a un peu cette image musique festive. C'est avant tout dans les textes. Il a une chanson par exemple qui s'appelle Monsieur Président. Allez écouter ça, vous allez comprendre que ces gens ont des choses à dire à la fois musicalement et à la fois dans les textes.
Et pour également illustrer le fait que La Traverse programme des groupes tous azimuts, vous allez recevoir un garçon qui nous vient de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Jason Mist. Alors je t'avoue que je le découvre, ce garçon là.
Drying up in conversation, I don't feel the words for words. Seen it all inside my vision. It's a blessing.
moi aussi. et vraiment. Et bon, après, ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu voir sur les vidéos, bah, je pense que c'est une très belle découverte. En effet, c'est quelqu'un qui est né en Nouvelle-Calédonie, mais qui a beaucoup voyagé, qui a été notamment en Inde et qui a passé beaucoup de temps en Australie. Il joue de la Wes Borne, c'est ça, c'est tu fais des guitares à plat. Alors on associe souvent, on le cite souvent avec Ben Harper.
Oui, voilà.
Je serais plutôt sur du John Butler Trio dans ce qu'il fait. Ils viennent en duo là, et voilà, il y a des super arrangements de voix, il y a c'est de la guitare slide hein, donc classique à plat. C'est un mélange de folk et de blues qui est voilà, c'est une très belle première partie.
Voilà, Jason Mees plus Del Grey, on est sur la soirée du samedi 16 mars. Whenever I want what is mine, I'm told that my time will come, but I feel like it's come and gone. Et puis nous avons Jolie Squalker qui vient le vendredi 29 mars. Alors un garçon qui aurait dû être programmé, je crois, déjà depuis un an ou deux, c'est ça Olivier?
C'est ça. En fait, il devait déjà être programmé et malheureusement on a dû annuler à cause du Covid.
Ouais.
On a reporté le concert et là, il a voilà, eu un petit problème de santé. Et donc là, il revient enfin le 29 mars. Il était déjà venu en fait en 2009 à la Traverse.
Ouais.
Mais moi, j'étais pas là, je l'ai jamais vu. Ce qui est sûr, c'est que là, on fait venir un grand classique du blues rock, du rhythm and blues, dans toute sa diversité à la Traverse. C'est vraiment quelqu'un qui représente cette musique. C'est un super chanteur, voilà, il a de très très nombreuses références. On est ravis de l'accueillir à la Traverse le 29 mars.
Bien sûr, Jolie Squalker qui est une sommité depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis en première partie, tu vas recevoir un guitariste belge qui joue habituellement derrière Caso Kings, également c'est dans ça. Son groupe belge The Blues Bones, c'est Steph Paglia.
That smile on your face, take away your love and watch you fall into disgrace.
Ouais, tout à fait. Et là, je sais que voilà, on a ça en commun, c'est d'adorer Caso Kings. Et moi, ça fait partie, tu vois, des super souvenirs que j'ai eus.
Ah oui, oui.
On a quelqu'un d'exceptionnel qui accompagne cet artiste. Et du coup, bah là, c'est le cas. Donc, on est ravis d'accueillir Steph Paglia aussi à la Traverse en première partie de Jolie Squalker.
Voilà.
Ça va vraiment faire une très belle soirée également.
Steph Paglia, Jolie Squalker pour le vendredi 29. Et puis ensuite, on arrive au mois d'avril, vendredi 5. Et là, à la Traverse, Monsieur John Cleary. Some sit down and don't, some sit down and will, but sit down and won't. You might think I'm wrong, I believe I'm right, but the wheels are digging on me right now. I think John Cleary qui est une sommité, même s'il n'est pas né à Nouvelle-Orléans, il fait partie de l'ADN de cette ville musicalement parlant. John Cleary, que je me souviens avoir applaudi il y a une petite vingtaine d'années sur le Cognac Blues Passion, c'est un petit événement quand même d'accueillir un garçon comme ça.
Ouais, je suis très très heureux. En fait, alors là pour le coup, ça fait partie des premières dates que j'ai moi pu mettre en place.
D'accord.
En fait, c'est un super souvenir parce que moi, je suis arrivé en 2015 à la Traverse et c'est l'un des premiers concerts que j'ai vu.
Mmh.
En tant que, à l'époque, chargé d'action culturelle, mais en tant que, justement, travaillant dans l'équipe. Et je me souviens de ce groove de la Nouvelle-Orléans. Moi, en tant qu'ancien bassiste, enfin voilà, je me suis régalé. Il y avait une super ambiance dans ce concert. Faut rappeler, en fait, pour les amateurs de séries qui ont regardé la série qui s'appelle Trem.
Oui.
Voilà, qu'il a fait énormément de BO sur cette musique-là. Là, il vient en trio, donc avec The Absolute Monster Gentleman. Bah voilà quoi, venez danser à la Traverse quoi, venez vous éclater sur, sur ce mec qui est vraiment exceptionnel.
Et en première partie de John Cleary, tu as prévu un garçon que je ne connais pas, qui s'appelle Gordy Chambers, que je te laisse nous présenter.
My naked feet are burning in the snow. When winter is over, I can't in the rain. Also become insane when the lazy day is over. I can lie away to the morning light again.
Alors, Gordy Chambers, eh ben, ça fait justement partie des surprises qu'on a eues, nous, lors du tremplin.
D'accord.
Du dernier tremplin. En fait, j'en profite hein, pour expliquer que ce tremplin de la traverse, il nous permet, alors du coup, là, moi, il me permet bah, de découvrir éventuellement des futures premières parties, même s'ils ne sont pas gagnants. Ce qui était le cas de Gordy Chambers, qui est venu tout seul, en fait, et il m'a immédiatement fait penser à Jonathan Richman. Je ne sais pas si tu...
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est vraiment un personnage. C'est vraiment quelqu'un... Alors, qui joue de la folk, voilà, c'est des balades, c'est très cool. Alors évidemment, les références, c'est Bob Dylan et tout ça, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu décalée, très drôle sur scène. Il a une vraie présence qui est hyper intéressante et je m'étais dit, tiens, moi je sais que voilà, si j'ai l'occasion de pouvoir le faire venir. Et là, il a monté son groupe en fait.
D'accord.
Donc il ne sera pas tout seul, ils viennent à quatre. Et venez découvrir cet artiste normand, il est anciennement Basse-Normandie à côté de Caen.
Mmh.
Et vraiment, ce qu'il fait, c'est super, c'est très beau. C'est un artiste en devenir sans problème.
D'accord, un garçon de chez nous donc qu'on va découvrir ce vendredi.
Exactement.
5 avril. Gordy Chambers et John Cleary. Et puis la dernière soirée programmée, c'est pour le jeudi 18 avril avec une soirée fille. Fille, hein,
ouais.
C'est ça. Il y a une partie de la programmation avec le groupe Baskery. Il me semble que c'est aussi à l'initiative bah, de notre ami Michel Gaudret qui collabore à la Traverse depuis son origine. Je me trompe ?
Alors là, pour le coup, oui et non. C'est-à-dire qu'en effet, Michel, moi je travaille avec lui, évidemment. Il est là et il est en permanence. En fait, moi, c'est mon premier poste de direction et du coup, je m'appuie forcément bah, sur des gens comme Michel, mais aussi des gens comme Marc, des gens comme Paul pour bah, comprendre et faire le lien avec les boîtes de prod. Mais je les accueillais déjà aussi depuis 8 ans, puisque ça fait 8 ans que je remplaçais Paul sur les soirées où il n'était pas là. Donc tout ça a du lien. Mais en effet, les Baskeries, ils sont déjà venus en 2008, en fait, à la Traverse. C'est un trio, hein, c'est trois sœurs qui jouent donc du banjo, de la contrebasse, guitare. Là aussi, on a des instruments bah, classiques, un folk rock un peu comme ça, déjanté. C'est, voilà, c'est super ce qu'elles font. Et juste derrière, donc, Erja Littinen. Littinen, qui est également, elle, venue à la Traverse, c'était plus récent, en 2019, qui, elle, joue un blues rock beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus puissant. Alors, même si elle se réfère à Aretha Franklin au niveau de la voix, moi, elle me fait plutôt penser à Bess Hart, qui aurait pris des cours avec Dizzy Top, tu vois. Elle a un côté riff, Erja Litinen, que j'aime beaucoup. Et ces deux groupes, en fait, ont la particularité de venir du Nord. C'est-à-dire que Erja, elle vient de Finlande et les Baskeries, ils viennent de Suède.
Donc, de la Scandinavie, pour terminer ce Blues from Mars, ce sera pour le jeudi 18 avril avec Baskery, puis Erja Litinen, que vous accueillez ici à la Traverse pour la deuxième fois, je crois, avec des tarifs qui me paraissent tout à fait abordables, hein, je crois, à l'exception de Delgré, qui est une somme astronomique, c'est 24 euros, les autres soirées, c'est 23 euros. Non, franchement, il y a des gros efforts qui sont faits à ce niveau-là, bien sûr,
oui.
il y a une participation, je l'imagine, des collectivités territoriales, mais
oui.
C'est compliqué, hein, maintenant, en 2024, d'organiser des concerts et puis de ne pas faire des tarifs qui flambent, quoi, finalement.
Oui, c'est très compliqué, on ne va pas se mentir, et nous, c'est vrai qu'on a un appui de la ville de Cléon qui est indéniable, on a un appui de la région, du département, de la métropole et de l'État, évidemment,
oui.
Et ça, c'est très important, et ça nous permet, justement, malgré, en fait, le fait que l'ensemble de ces institutions maintiennent leurs subventions, nous, on a des coûts, comme tout le monde, en fait, des coûts, notamment de fluides, qui explosent, littéralement, et ben, on essaye, malgré tout, de rendre, en effet, ces tarifs accessibles. Il faut préciser que on a un système d'abonnement à la Traverse et que si vous regardez tous les quatre groupes dont on vient de parler, ils font partie donc du festival Blues de Mars, et bien quand vous prenez à partir du deuxième concert, vous avez accès au tarif réduit, qui est même plus à 23, mais qui est à 19 euros.
Donc là, je vois également 4 concerts pour 71 euros.
Exactement.
Et en tarif réduit pour 59 euros seulement. Voilà, pour 4 très très belles soirées. Franchement, voilà, à la Traverse, vous faites toujours tout ce qu'il faut. Et puis, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je sais qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas encore allés à la Traverse. J'ai envie de dire malheureusement pour eux, parce qu'il y a toujours un superbe accueil. C'est très chaleureux. Et en plus, l'acoustique est formidable. Quoi.
Ouais, c'est une scène exceptionnelle. C'est pas du chauvinisme.
Non, mais
sincèrement,
on va le dire quand même, parce que c'est pas le cas partout, et franchement là, de quelque endroit qu'on soit sur la surface de la salle, eh bien on perçoit tout comme il faut.
En fait, il y a vraiment une conception de la salle qui fait que c'est une salle à taille humaine, qui fait qu'on se sent très proche en fait des gens, qu'on soit dans les gradins ou qu'on soit debout devant si on a envie de danser. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un public fidèle de connaisseurs. Ça, c'est important. La Traverse ne serait pas ce qu'elle est sans son public. Et ce n'est pas de la démagogie de dire ça. C'est l'histoire qui fait ça. C'est les différents programmateurs qui ont su fédérer un public qui vient, qui est présent. Et tout ça, en fait, fait qu'en effet, on a un accueil qui est reconnu à la fois par le public, qui est reconnu par les groupes aussi. Parce que ça fait partie de l'ADN de la Traverse, d'accueillir les gens et de faire tout pour qu'on passe un super moment. C'est ça.
Voilà, très très bien résumé. C'est vrai que pour en être également spectateur, je retrouve tout à fait dans tes mots ce que tu décris pour être la salle de la Traverse qui va continuer sous la houlette d'Olivier Gall. Donc toi, le nouveau directeur, on peut encore dire nouveau directeur, hein, oui ?
Oui, tout ça à fait. Non, il n'y a aucun souci.
Très bien. Merci pour tout ça, Olivier. On va retrouver bien sûr toutes les infos qui concernent la Traverse sur latraverse.org, tout simplement.
C'est ça. Exactement. Merci à toi, Marc. Merci de ton soutien.
À très bientôt, Olivier. Au revoir.
À très
merci.
Bientôt. Au revoir.
T'es arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes au pied, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre à ramener. Enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Même comme ça, qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés. On m'a promis le ciel, maintenant je suis.
Merci Olivier Gall, on a écouté Del Grey, Jason Mist, Julius Walker, Steph Paglia, John Cleary, Gordy Chambers, Baskery et Erja Littinen. Et puis rendez-vous bien sûr sur le site de l'émission bluesradio.fr pour gagner votre place à l'un de ces concerts. On y va pour les incontournables avec Gladys Amoros.
Oh, yeah. What can a man do?
Mama got mad at Papa. Cut it in brain, no coffee.
Les incontournables, vous le savez, ce sont les albums absolument à côté desquels il ne faut pas passer. Et j'ai demandé à chacun d'entre vous, et franchement, à chaque fois, vous avez du goût. Et là, on va revenir carrément en 1961 avec un certain B.B. King, My Own Fault Baby, sur l'album Mine Kind of Blues. Voici Monsieur B.B. King.
It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. Yes, at the time you was loving me, baby. Check, baby, and bring them all home to me. I'd go out on the hillside, you know, and make every woman drunk on sin. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. Yeah, at the time you was loving me, baby.
Le roi du blues, Monsieur B.B. King, My Own Fault Baby. On va continuer après cette rubrique Les Incontournables avec le Beatles Song Story. C'est Jackie Emery. Beatles Song Story numéro 44. Salut Jackie, tu vas bien ?
Bonjour Marco, ça va très très bien.
Bon, super. Ben voilà, ça y est, c'est le printemps, on est enfin sorti le cul des ronces, comme on dit.
Oui, et t'as remarqué quand même que déjà ça pousse. Hein.
Oui.
Il y a plein de petits trucs de couleurs qui apparaissent que j'adore.
Mais tu m'as pas emmené voir les bourgeons encore cette année. Hein.
Non.
Bon, ça sera peut-être pour 2025, je sais
peut-être.
Pas. Et là, aujourd'hui, avec les Beatles, tu as décidé de revenir aux racines, justement. Hein. Tu parles de l'herbe qui pousse, tu parles des bourgeons, des fleurs. On va aller aux racines des Beatles et à leurs principales inspirations, c'est ça l'idée.
Voilà, absolument. En fait, on va considérer qu'aujourd'hui, c'est un peu une mission un peu spéciale, où nous n'aurons pas des chansons écrites par les Beatles, et donc pas de cover, mais nous aurons deux chansons interprétées par les Beatles, qui va nous permettre de parler un peu de leurs influences.
Mmh.
Voilà. Donc la première chanson que j'ai choisie, c'est Twist and Shout. Voilà, et la deuxième, c'est Anna.
La première étant beaucoup plus connue et beaucoup plus reprise, j'ai l'impression, non ?
Oui, elle est très très connue. Alors probablement, c'est lié au fait qu'il y a son espèce d'assimilation à la bamba.
Oui.
Avec
le équivalent.
Voilà, le même genre de riff. Oui. Alors avant d'entamer clairement sur la chanson Twist and Shout, ce qu'on peut dire, c'est que nous savons parfaitement, c'est acquis, que les Beatles sont influencés énormément de groupes. On pourrait même considérer, je l'ai entendu, je l'ai lu, que sans les Beatles, certains groupes ne seraient pas apparus. Après,
il y a des noms comme ça, Jackie ?
Oui, j'ai des noms de groupes à peine connus, genre Doors, Pink Floyd.
Des débutants, quoi.
Ouais, voilà. J'ai lu quelque chose récemment dans un journal où David Gilmour disait que pour lui, les Beatles, c'était vraiment absolument extraordinaire. Et quand il était jeune, son rêve, c'était d'être un Beatles.
Ah ouais.
Il aurait aimé être un Beatles.
Alors qu'il est à peine plus jeune que les Beatles. Hein.
Oui, et puis quand on voit la qualité de composition et d'instrumentaliste, on dit comme ça,
instrumentiste,
ouais. Ça serait mieux.
Ouais.
Ben voilà, c'est cool, quoi. Tu vois,
quand tu vois le niveau de guitare de David Gilmour.
Ouais.
Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Pink Floyd, bon, déjà, c'est une erreur, mais deuxièmement, écoutez bien le jeu de guitare et puis la technique d'un garçon comme ça. Est-ce qu'il y a un des guitaristes des Beatles qui lui arrive à la cheville, à David Gilmour ?
Non.
Techniquement parlant. Hein.
Non. Les Beatles, c'est pas... on peut quand même qualifier le jeu de George Harrison vraiment de très fin. Il y a des trouvailles toujours incroyables. Je pense par exemple à des arpèges. Je pense par exemple à un morceau que nous avons fait ici qui était I Got a Feeling.
Mmh.
La petite trouvaille de Lennon sur l'arpège est vraiment géniale. Mais c'est pas le niveau des grands guitaristes et des guitareros qu'on aura après de type Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page et autres.
J'ai quand même l'impression à t'entendre parler, voilà, que les Beatles ont été un groupe charnière, bien évidemment. On va parler des inspirateurs des Beatles, des pionniers du rock'n'roll. J'imagine que tu vas prononcer le nom de Chuck Berry à un moment donné.
Ah, certainement.
Lui qui n'est pas un fin technicien, qui est juste un type vachement bon et avec beaucoup d'énergie. Je veux pas dire que c'est un mauvais guitariste du tout, hein. Mais voilà, par rapport à Gilmour, par exemple.
Oui, et puis Chuck Berry, il a une trouvaille terrible sur le riff, ses intros, sa rythmique, mais il va un peu tourner en boucle durant toute sa carrière, quand même.
Exactement.
Chuck Berry. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même génial. Hein. Il y a quelque chose de vraiment incroyable dans la puissance de Chuck Berry, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on dit que les Beatles ont inspiré les autres groupes et que sans les Beatles, il n'y aurait pas eu un certain nombre de groupes, ça peut paraître assez prétentieux, quoique ce soit pas les Beatles qui le disent. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, là où les Beatles vont changer quelque chose de très très important et qui sont les premiers à avoir fait, c'est surtout d'être apparus comme chanteurs, jouant de leurs propres instruments et faisant leurs propres chansons. Voilà. Jusqu'aux Beatles, on était quand même souvent avec un chanteur plus ou moins solitaire, avec un orchestre qui l'accompagnait ou un groupe de musiciens. Et bien souvent, c'était des reprises des chansons d'outre-Atlantique en particulier. Voilà. On avait des imitateurs de Sinatra qui étaient très bons. On avait des imitateurs de
Liszt. On a fait ça en France aussi. Hein.
Absolument.
Les Anglais n'ont pas cet apanage.
Ouais. Mais les Beatles se sont arrivés et ont commencé à faire des chansons. Et des chansons, et c'est un peu le sujet de l'émission aujourd'hui, à la manière d'eux.
Ouais.
Voilà. Toute leur vie,
ce que tu disais l'autre jour à propos de Paul McCartney, accusé de plagiat. Ah non, on voulait juste rendre un hommage, on voulait faire à la manière d'eux.
Oui, et puis d'ailleurs, il le disait dans les interviews, il disait, dans ce morceau-là, par exemple, à Wanna Be Your Man, on voulait faire un truc genre Bo Diddley, tu vois.
Ouais.
Et souvent, pour eux, c'était des hommages, et puis je pense que fondamentalement, à peu près tout musicien fonctionne un peu comme ça pour faire de la création. Ça va être parce qu'il s'est inspiré. Alors, les Beatles, s'ils vont avoir fait quelque chose aussi, ils ont deux types d'inspiration. L'inspiration de leur début, avec tout ce qui sera blues, rock and roll et rhythm and blues. Et après, on s'aperçoit qu'en fait, l'inspiration des Beatles, elle est tous azimuts. c'est sûrement, à mon avis, une des clés de l'incroyable diversité de leurs chansons sur Sgt Pepper, le Double Blanc, etc. C'est-à-dire qu'ils vont puiser leurs influences dans des choses qui viennent du music hall, qui viennent de la tradition, du chanteur de charme. C'est un petit peu comme si en France, un groupe s'était inspiré à la fois du rock, des rockers, d'Elvis Presley, des Beatles et tout ça, mais en plus, n'avait pas hésité à aller chercher du côté de Charles Trenet, ou même encore plus loin, du music hall, des premiers pas du music hall en France, Edith Piaf, etc., etc. Les Anglais, je trouve, par rapport aux Français, encore que ça a un peu changé après, au niveau des années 80-90, oui, les Anglais n'hésitent pas à puiser dans leur patrimoine national.
C'est ce que tu disais, tu as dit ça dans un de nos épisodes à propos de Paul McCartney, et puis moi j'en étais arrivé aussi à la conclusion, je crois tu vas faire la même que nous en France, on est à peu près les seuls dans le monde à cloisonner autant les styles de musique. Tu parles avec un Anglais, un Américain, ça nous arrive de temps en temps, et eux ils comprennent pas ça. Pourquoi pourquoi
Il n'y a pas que la musique qu'on cloisonne en France.
C'est vrai.
On aime bien compartimenter. Bon, bref, oui, je pensais aux chansons que Lennon qualifiait, je l'ai dit dans une autre émission, que McCartney aimait beaucoup, qui va donner des chansons comme Mother Should Know. Il appelait ça des chansons de mes mères.
Bon, à mettre à la
poubelle. Donc, revenons à nos moutons. Donc, Twist and Shout, c'est une chanson écrite en 1961 par quelqu'un qui s'appelle Phil Medley et Bert Burns. Elle est construite sur trois accords. Elle est assez simple à jouer. Elle est un peu copiée sur la bamba, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, elle sera enregistrée par le groupe The Top Note, sous la direction de Phil Spector. Elle rencontre assez peu de succès, il faut le dire. Elle sera modifiée et réenregistrée par le groupe les Isley Brothers. Et elle va devenir un tube, là, pour le coup. Les Beatles vont donc se la réapproprier et l'enregistrer sur l'album Please Please Me, qui est leur premier album, qui est sorti le 22 mars 1963. Alors, c'est là qu'on voit que les Beatles sont encore sous influence de cette époque où on reprenait les tubes, puisque sur l'album Please Please Me, il n'y a pas moins de 6 chansons qui ne sont pas des Beatles. Voilà. Elle est enregistrée au studio d'Abbey Road, EMI à l'époque, le 11 février 1963. John hurle véritablement la chanson à la fin d'une séance qui avait duré 9 heures, pas que sur Twist and Shout, sur les autres chansons, c'est en fin de séance. Et les Beatles s'éloignent relativement assez fortement du style twist qu'avait la chanson au départ pour la faire sonner un petit peu plus rock'n'roll. Voilà. Le 4 novembre 1963, c'est cette chanson que John va chanter devant la famille royale, où il aura cette fameuse phrase « Que ceux qu'on les place pas cher tapent dans les mains, et ceux qu'on les place plus cher fassent remuer leurs bijoux. Voilà. » Voilà. Alors c'est vraiment une chanson quand même qui marque les Fab Four, hein. D'ailleurs moi je connais beaucoup d'amis qui n'ont pas la culture Beatles comme moi, qui pensent que c'est une véritable chanson des Beatles. Et j'ai même des amis, et pour en citer un qu'on connaît bien ici, Richard.
Salut Richard.
Richard Deven, qui considère que c'est une de ses préférées des Beatles.
Ah oui, voilà. Alors que c'est pas deux, quoi.
Il est quand même malin, bon, lui. Hein,
en même temps, oui, non, mais c'est quand même une chanson des Beatles parce qu'elle était interprétée par les Beatles. Et quand tu vas sur Google, tu tapes Twist and Shout, tu tombes sur chanson des Beatles. Tu vas pas plus loin que ça, évidemment. On sait pas que ça a été créé 2 ans avant.
Tout à fait. Tout à fait, voilà.
C'est comme l'autre jour, je suis tombé sur Cocaine, chanson d'Eric Clapton.
Oui, ben, beaucoup le disent, hein. Voilà. Beaucoup le disent, oui,
c'est
effectivement.
C'est Kel, ouais, ouais, plein de choses comme ça.
Hein. Ouais. Bah, après, ça, ça s'explique, hein. Vous avez des chansons dont l'auteur n'a pas su, ou peut-être...
Oui, là où c'est plus grave, c'est quand tu vois que Sweet Home Chicago, chanson des Blues Brothers. Là, par contre, là, ça
ah ouais,
passe plus
ah
du
ouais,
tout, quoi.
Ah oui, ouais, bah, effectivement.
C'est très, très bizarre. Mmh. Donc, nous sommes là pour rétablir un certain nombre de faits. Hein.
Ouais. Donc, les influences des Beatles, c'est Cliff Richard, The Shadows, c'est Chuck Berry, Buddy Holly, les Everly Brothers, Elvis Presley. Et puis alors, plus tard, il y aura d'autres influences. Hein. Je pense, par exemple, à Ravi Shankar, on peut dire que c'est une influence pour les Beatles, au travers notamment de la sitar qu'avait appris à jouer George Harrison. Et Eric Clapton aussi, hein, qui, on le sait, viendra jouer avec les Beatles, notamment sur le fameux solo de Why My Guitar Gently Drips. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu une grande influence sur les Beatles et qui est un petit peu moins connu. Il s'appelle Arthur Alexander. You ask me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Lennon l'idolâtrait véritablement, et McCartney dira que quand ils ont commencé, ils voulaient sonner comme lui. Hein. Alors, il a une voix très, très suave, très intéressante, Arthur Alexander. C'est un peu toujours le même genre de ces tempos des années 60. Si quelqu'un voulait faire un rapport, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je pense à Richard Anthony et que j'entends siffler le train.
D'accord.
Tu vois.
J'ai pensé qu'il valait. C'est triste un train qui siffle dans le soir.
D'ailleurs, Richard Anthony, je le dis entre deux parce que pour avoir étudié un peu la question, en France, on reprenait beaucoup, tu sais, les chansons qui venaient d'outre-Atlantique.
Ouais.
Et on a connu celle de Claude François qui, à mon avis, était, j'espère pas me faire trop d'ennemis, mais pas terrible en fait. Beaucoup ont repris, bon, il y a Eddie Mitchell, tout ça. Mais on a un peu négligé Richard Anthony qui avait fait de très très belles reprises et qui avait compris surtout de ne pas gâcher ou tromper le sens original de la chanson, soit au niveau de l'interprétation,
oui,
et au niveau de la mise en place.
Je vois exactement
de
ce que tu veux dire, voilà. Au niveau du message.
Je n'ai pas trouvé le mot exact, mais ouais. Il y avait un grand respect sur la chanson et de l'interpréter, non pas pour faire un tube à partir de quelque chose qui fonctionnait bien aux États-Unis, mais de vraiment être en adéquation
dans l'esprit,
avec,
quoi.
Dans l'esprit de la chanson du départ. Voilà. Donc les Beatles enregistreront d'ailleurs donc sur l'album Please Me, c'est celui qu'on va écouter à la fin de cette émission qui s'appelle Anna ou Go To Him. Hein. Elle figure donc sur l'album Please Me, mais avec Arthur Alexander, quand tu lis la presse spécialisée, il a aussi influencé, ils le disent eux-mêmes, les Stones, Bob Dylan, Elvis Presley, Tina Turner, Jerry Lee Lewis, tu vois, Percy Sledge. Donc c'est quelqu'un qui a compté et qui pourtant n'est pas très connu dans le monde de la soul. Hein, voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peut-être que les générations, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent notre émission.
Ceux qui sont nés après 2000, levez le doigt.
Mais il faut bien comprendre qu'on est dans les années 55-60 à Liverpool. Ouais. les Beatles sont encore des adolescents et il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision ne diffuse que ce qui est à peu près toujours très officiel. Elle n'est pas très révolutionnaire. Et donc, si tu veux,
il reste les radios quand même.
Il reste les radios, mais même ça, c'est pas génial. Par contre, la chance des gens comme Lennon et McCartney et Harrison, c'est qu'ils habitent Liverpool et que c'est un port.
Ben oui.
Et que les marins arrivent d'outre-Atlantique, et sachant que les jeunes sont très friands, ils arrivent avec les poches pleines de LP, qu'ils leur vendent, et donc ils se font une culture qui est des fois même un petit peu décalée avec la culture londonienne, qui n'est pas au top, bien qu'on a tendance à les considérer un peu comme, je n'irais pas dire des paysans, parce que quand les Beatles sont arrivés à Londres, c'est un peu comme ça qu'on les a considérés, ils venaient de Liverpool, même si c'est un très grand port, voilà, et puis en plus ils avaient un accent un peu, un accent... qu'on dirait, nous, de paysans.
L'accent voilà, normand, quoi.
Voilà. Et donc, mais ils avaient une véritable culture. Ils en connaissaient beaucoup plus long sur la...
C'est ce qu'on faisait en France, nous, avec le jazz, hein, depuis les années 40. Enfin, moi, j'avais eu le témoignage d'un garçon que tu connais sûrement, qui s'appelle Jacques Morgantini, qui est décédé, le pauvre, il y a quelques années. Qui aurait 100 ans cette année, d'ailleurs. Il va se passer des choses à propos du centenaire de Jacques Morgantini. Et lui, il me racontait que, juste après le débarquement, bah, il se fournissait en disques de jazz et de blues, parce que ça commençait à exister, avec justement ces fameux cargos qui arrivaient sur le port de Bordeaux et qui permettaient à tous les amateurs de jazz et de blues de satisfaire leur curiosité. On imagine mal maintenant, et c'est vrai, tu parlais des jeunes tout à l'heure, un monde hyper connecté comme on le connaît maintenant. On imagine mal qu'il n'y ait pas eu Internet, le téléphone existait bien sûr, mais c'était le seul moyen d'être en direct avec justement les États-Unis par exemple, les créateurs. Et comment faisaient les Beatles? Alors ben voilà, c'est ça, par le disque essentiellement.
Ah ouais. Oui, c'est étonnant parce que maintenant, effectivement, un musicien qui te ferait une création au fin fond de l'Oural, tu y as accès très rapidement.
Mais oui.
À l'époque, rien que ce qui venait des États-Unis, il y avait un décalage dans le temps que ça arrive, le temps que ça soit connu.
On était encore dans la tradition orale, c'est pour ça.
Et puis il y avait des barrières aussi culturelles. Il y avait des choses qu'on ne passait pas à la radio ou qu'on ne passait pas à la télévision. Mmh. Voilà. D'ailleurs, ce fut le coup de patte de Brian Epstein qui va comprendre qu'il faut faire un savant mélange entre garder l'esprit des Beatles, l'esprit qu'ils ont de rockers, de jeunes très, très différents, mais leur donner un minimum de lissage pour qu'ils puissent avoir accès aux grands médias. Sinon, il n'y aurait jamais été. Et donc, c'est lui qui les fait rentrer à la télévision. C'est ce qui fait quand même décoller. À l'époque, la télévision, c'est l'Internet. Hein. C'est le média phare d'aujourd'hui.
You look so good, so good. You know you got me going.
Après Twist and Shout, tu parlais de cette chanson qui s'appelle Anna Go to Him. Ça parle sûrement moins aux auditeurs, ça.
Oui, c'est une chanson d'Arthur Alexander. Ah ouais. Alors quand on l'écoute, on l'a dans l'oreille, enfin ceux qui écoutent un peu les Beatles, parce qu'ils l'ont chanté assez souvent. Il faut savoir que les Beatles ont fait énormément de reprises au départ. Quand ils sont partis en Hambourg, ils faisaient quasiment que des reprises, oui. Placer quelques-unes de leurs chansons dedans. Donc j'aurais pu choisir, j'ai fait une petite liste exhaustive de ce qu'ils ont joué, et voire même enregistré. Par exemple, il y a eu beaucoup d'enregistrements qui ont été faits en direct à la BBC. Roll Over Beethoven, oui. Chuck Berry, Rock and Roll Music, Chuck Berry, Monet, That's What I Want, Long Tall Sally, Little Richard, Slow Down, Matchbox, Dizzy Miss Lazy, qui est enregistré aussi sur un album, Lucille, Sweet Little Sixteen, enfin bref.
Lucille, c'est Richard Pennyman, ça.
Y a, voilà, y en a, oui, excellent. Il y en a une liste longue comme le bras. C'est donc intéressant, si on doit synthétiser la fin de cette émission, c'est cette influence de la soul, du rock and roll, de tout ce qui va venir, en particulier d'outre-Atlantique. Et après, je pense que les Beatles, ils avaient un esprit tellement ouvert qu'ils se sont inspirés de milliers de choses. Comme dans les émissions qu'on a fait, je m'arrivais de te dire, ça faisait un peu penser à Chuck Berry, mais ça, c'était un peu aussi Beethoven, oui. Ça, c'était un peu Brahms, ça, c'était un peu, tu vois. Ils avaient tellement l'esprit ouvert, et dès que ça leur plaisait... Et puis ensuite, ils ont fini par devenir, et ça, on le voit apparaître sur l'album Revolver, et avec un morceau dont nous parlons dans une prochaine émission qui s'appelle Tomorrow Never Know, mm-hmm. Ils vont créer eux-mêmes leur propre style avec leurs propres inventions. C'est-à-dire que là, ça n'aura été fait par personne. Ils auront peut-être quelques influences, mais c'est vraiment eux qui sont les créateurs. Et du coup, ils influenceront un morceau comme Tomorrow Never Know, dont on parlera à la prochaine émission, a forcément inspiré des groupes comme Emerson, Lake & Palmer, dont on parlait tout à l'heure, ou Pink Floyd, parce qu'il y a des choses qui sont absolument extraordinaires dans ce morceau. Voilà, Marco. Voilà,
très bien.
Set you free, go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him.
On a écouté Anna Go To Him, juste avant c'était Twist and Shout, les Beatles. c'était le 44e épisode de Beatles Song Story. Je te dis à dans 15 jours, Jackie. Merci encore.
À dans 15 jours, Marco.
Salut. Beatles Song Story avec The Isley Brothers, Arthur Alexander et Richard Anthony. Puis bien sûr, The Beatles pour Twist and Shout et Anna Got to Him. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Et on termine ce 1228e Sweet Home Chicago avec Better Now, un nouvel extrait du dernier album de Malted Milk. Better Now avec Malted Milk sur l'album 1975, disque du mois pour Sweet Home Chicago. C'est la fin de cette première heure sur Radio 666, 1228e Sweet Home Chicago. On se retrouve dans quelques secondes avec Marquise Knox.